présenter une petite communication qui a un titre. Parce que je suis un classique. Donc j'aime qu'il y ait un auteur, un titre, un texte, un temps de parole, etc. Donc je me donne la parole pour 3 quarts d'heure. Merci Monsieur le Président. Et je vous annonce, puisque je m'introduis moi-même, que Monsieur Stigler va vous présenter. Merci Monsieur Stigler d'être là. Bon. Mais de rien, monsieur, ça fait plaisir de vous revoir. Le texte qui s'appelle La faculté de projeter. Sachant que projeter, c'est ce que fait un projecteur comme celui qui est là-bas, mais c'est aussi ce que la pensée du temps depuis Kant, précisément, identifie comme la question du temps. Mais pour projeter, il faut un espace. Donc c'est la question du rapport entre l'espace et le temps. Et finalement les appareils, puisque les appareils, la projection se fait toujours à travers des appareils de projection. Donc le titre c'est La faculté de projeter, et le sous-titre c'est Et le devenir aveugle. Pour enchaîner d'ailleurs sur ce dont parlait Marie-Josée Montand tout à l'heure. Aveugle, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça voudra dire individu désaffecté. Et pour voir, il faut être affectable par ce qui est visible. On n'est pas affecté. Et les athlètes qui se passent dans le ciel, vous savez que les mouettes voient et que vous ne voyez pas, ça ne vous affecte pas parce que vous n'êtes pas affectable, vous n'êtes pas disponible à ce type de vision. Mais c'est même une dualisation de l'air. Ça, c'est pour le côté physiologique de la zoologie, l'organologie des organes du vivant, du vivant qui est doté d'un système nerveux. Mais il y a aussi des capacités de voir qui s'acquièrent. Et moi, je pense que si on veut faire des photos, c'est pour essayer de voir. Pas pour montrer, c'est pour essayer de voir. Et je pense qu'en même temps, pour voir ce qu'on essaie de voir en une photo, il faut pouvoir la montrer. Et c'est précisément pourquoi César nous dit, je le répète tout le temps, je ne peux pas voir ce que je ne peux pas montrer. Je ne vois que ce que je suis capable de montrer. C'est ça que j'appelle le circuit, du voir à la démonstration. Nous vivons, je crois, aujourd'hui, le temps de la désaffection par excès d'affect, par ce que j'appelle la saturation affective, c'est-à-dire le bombardement permanent d'images, de sons, mais aussi de cartes, de sont des hyper-sollicitations des sens qui produit une anesthésie généralisée. Mais pas simplement une désaffection, une autre manière de parler d'anesthésie, mais une désaffectation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On parle d'usine désaffectée. La désaffectation d'une usine, c'est le fait de dire à un moment donné, ce truc-là ne sert plus à rien. Je pense qu'il y a aujourd'hui des individus désaffectés dans ce sens-là, ce que j'appelle les friches du bain. Tout à l'heure, Marie-Josée proposait de distinguer l'humanisation de l'humanisation, mais je crois que nous vivons effectivement la déshumanisation en ce moment, en tout cas, le danger d'une déshumanisation, et qu'il faut le poser comme tel, non pas par les images, mais par les industries culturelles en tant qu'elles produisent des objets temporels industriels, je vais y revenir. Cette désaffectation qui fait perdre sa place. Car une désaffectation, c'est telle usine, tel site a perdu sa place dans le processus de production. Par exemple, Moulinex a dit qu'on se barre ailleurs ou on ferme. Elle affecte aujourd'hui, ou elle désaffecte plus exactement, les parents et les enfants. Je vous donne un exemple terrible. Patricia et Emmanuel Cartier, parents de 4 enfants, dont une petite fille est morte, assassiné par ses parents, alors assassiné, est-ce que le mot est juste? En tout cas, décédé, il y a meurtre, par injection d'insuline, par sa mère infirmière, qui décide, avec son mari, Emmanuel Cartier, de tuer leurs enfants, et ensuite de se suicider. Pourquoi faire? Pour aller vivre dans un monde meilleur, disent-ils. Il dit, ce monde n'est plus possible. C'est un monde affreux. Ils ont par ailleurs 15 cartes de crédit, etc. Enfin, vous avez entendu parler d'eux, ce sont ce qu'on appelle des hyperconsommateurs. Moi j'appelle ça des êtres désaffectés. Par quoi est-ce qu'ils sont désaffectés? Par le fait que, si vous avez lu il y a 2-3 ans dans le monde diplomatique un article sur le marketing américain de la dernière génération, la théorie du marketing américain aujourd'hui, c'est un développement de la théorie de la lifetime value, développée par Jeremy, enfin, exposée par Jeremy Rifkin dans la Jackson ce matin. c'est si vous voulez fidéliser un client, ce qui est le problème du marketing aujourd'hui, la fidélisation, de fidesse, qui renvoie à la foi. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec l'intégrisme religieux. Parce qu'on manipule la foi et la fidélité. Et on détruit les horizons primordiaux de fidélité. Je dis bien primordiaux et pas primaires. La théorie du marketing américain, c'est de dire un enfant entre 1 et 3 ans élabore ses processus d'identification primaire. Il faut bien en parler de ça, s'appelle Sigmund Freud. Et Freud a expliqué que ce processus d'identification primaire, il se fait sur le premier objet, et le premier objet, c'est la mère et le père. Ce qu'il appelle les parents. Parce qu'il dit, c'est pas, on dit généralement identification au père, non, c'est l'identification aux parents. Qui après se distingue entre père et mère, à partir du moment où le pénis est identifié. La théorie du marketing américain, quand je dis marketing américain, c'est pas pour en prendre l'Amérique, c'est parce que c'est aux États-Unis que les théoriciens du marketing sont les plus avancés. Ils sont meilleurs que les médiocres marketeurs européens. Dans leur genre. C'est, il faut que l'identification primaire se porte sur les images de télévision. Il faut que le processus d'identification se fasse via les flux temporels d'images et de sons produits par les automates que sont les appareils électroniques. Et c'est très très important et c'est extrêmement grave si vous savez que, par ailleurs, là où Freud parle de l'identification primaire, il est en train de produire le problème de désidentification secondaire. Il y a des identifications secondaires. Il dit, un être humain, devenant adulte, progressivement s'identifie à ses objets d'amour. Et puis il laisse tomber ses objets, ou ses objets le laissent tomber, donc il vit des processus de deuil, etc. Mais tout ça se dépose au fond de son moi. Ça se dépose sous la forme d'une mélancolie, narcissisable, sublimable, etc., etc. Et ça produit ce qu'on appelle des identifications secondaires. Il se trouve que l'histoire d'un être humain est une succession d'identifications secondaires qui souvent entrent en conflit les unes avec les autres. J'ai été communiste pendant un certain temps, après je deviens ceci, après je deviens cela, etc., par exemple, et il y a des moments où c'est dur à articuler tout ça. Et là, Freud dit, c'est là que l'identification primaire vient comme arbitre. Il faut un juge de paix psychique. Et ce juge de paix psychique, c'est l'identification à ce qu'on appelle trop sommairement le père. Et bien aujourd'hui, la question des images, qui n'est pas simplement la question des images, mais qui est la question de l'imagination, c'est-à-dire de la projection, c'est-à-dire du narcissisme, est désaffectée. Et je dis des fois, parfois je dis, mais je me méfie dans ce genre de mots, infectée. Parce que je crois être une pollution industrielle de l'affect qui conduit à la destruction de l'affect, c'est-à-dire de l'attention. Et je voudrais articuler ce que je disais ce matin ici à propos des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et que l'on veut maintenant ficher pour les suivre et les destiner direct en réalité à la maison de correction ou à des quartiers spécialisés, à des ghettos, etc. On va vers le communautarisme. J'ai relu des textes du début du siècle aux États-Unis, entre 1908 et 1925 à peu près, qui préconisaient la stérilisation des idiots, vous connaissez tout ça, l'eugénisme, inspiré de Galton d'ailleurs, était une théorie officielle aux États-Unis, du président des États-Unis lui-même. Ça s'est arrêté à cause de ce qui s'est passé en Allemagne, de la Deuxième Guerre mondiale, sinon c'était quelque chose qui était tout à fait devenu banal et ordinaire, et on est en train de voir revenir ce genre de discours. Cela étant, je crois qu'aujourd'hui la question des industries culturelles, c'est la question de ce que j'appelle le flux temporel industriel. Ces flux temporels industriels engendrent des dispositifs attentionnels, des dispositifs de captation de l'attention et s'inscrivent dans une économie liminale. Cela relève des technologies de contrôle. De contrôle de quoi? De contrôle des temps. Des temps des êtres vivants que nous sommes, on appelle les êtres humains, c'est-à-dire des mouvements et donc de l'espace, puisque le temps qui se fait neutre, le temps qui se met en mouvement, fait des choses dans l'espace et constitue un espace. Autrement dit, c'est la question de l'âme, au sens où n'entendait pas Aristote. Il s'agit aujourd'hui de critiquer les industries culturelles. Les critiquer ne veut surtout pas dire dénoncer. La meilleure manière de ne pas critiquer une chose, c'est de la dénoncer. On peut dénoncer par ailleurs, mais critiquer ne veut pas dire dénoncer. Critiquer veut dire d'abord analyser, discerner plus exactement. Le tocrinum dont parlait tout à l'heure Marie-Josée, qui est effectivement un jugement, qui est une critique, une décision, c'est aussi un discernement. Que faut-il discerner dans cette industrie culturelle dans laquelle nous vivons en ce moment? Eh bien, je le crois, c'est ce que je vais soutenir comme thèse, parce que je soutiens une thèse, ces industries culturelles sont une époque de l'économie libérale. Dans cette époque de l'économie libérale, donc, on fait fonctionner quelque chose que j'appelle notre cinéma. Je parle de notre cinéma au sens où j'ai développé la guerre, il y a 5 ans, la théorie selon laquelle, reprenant un peu au pied de la lettre ce que dit Gilles Deleuze au début de l'image mouvement, nos consciences font du cinéma sans le savoir. Vous savez, quand il commente Bergson, qui dit « cinéma est une illusion », etc., il commente en disant « mais peut-être que le cinéma est une illusion, la plus vieille des illusions, et peut-être que le cinéma actuel dont je vous parle là, qu'on appelle le cinéma, est ce qui permet corriger ce qui est la plus vieille des illusions, c'est-à-dire le constituant transcendantal de la conscience. » J'ai développé, moi, l'idée que ce qu'on appelle avec Kant la conscience, qu'on appelle chez Aristote la psyché, ce que l'on appelle depuis le XXe siècle plutôt l'inconscient, dont la conscience n'est qu'une partie, c'est une machine cinématographique. Non, voilà. N'employons pas le mot de machine cinématographique, c'est justement un peu trop Deleuzeau, Guattarien, et un peu trop métaphorique. C'est pas une machine cinématographique, c'est un dispositif cinématographique. J'ai essayé de le montrer assez précisément en analysant les trois synthèses de l'imagination et des lumières critiques de la raison pure pour essayer de montrer comment ce qu'on appelle la synthèse d'appréhension, la synthèse de reconnaissance, la synthèse de recognition désigne des opérations cinématographiques. Parce que ce sont des dispositifs rétentionnels de captation, d'enregistrement, qui agence et qui font du montage documentaire. Je ne vais pas développer ce point-là, dont on pourrait dire qu'il ressemble beaucoup, et c'est effectivement le cas au discours de Derrida sur l'écriture, en disant que la langue est toujours déjà écriture, et finalement, l'activité du nous, au sens où en grec le nous désigne l'intellect et l'idée, c'est une activité grammatologique, avec une archive. Et que ce qui apparaît comme l'écriture à un moment donné, au sens où Rousseau, Hegel et tant d'autres parlent de l'écriture, par exemple l'alphabet ou l'écriture chinoise, ce n'est que l'actualisation technique à un moment donné d'une compétence graphématique, qui est la base même de, selon Derrida, de ce qu'il appelle la différence avec un A, le gramme, ce qui n'est pas très éloigné, je crois, de ce que disait Marie-Josée tout à l'heure au propos de la séparation, même si c'est sûrement pas du tout la même chose. Moi je pose que ça. Au-delà, ce que nous apprend le cinéma, c'est que cette archi-écriture est un archi-cinéma. Et que l'âme, c'est d'abord, comme le dit très précisément Aristote, le mouvement. Le cinéma, c'est la question du mouvement. La conscience ancienne, on peut la décrire comme une machine cinématographique ou un dispositif cinématographique, étant entendu cependant que cette dispositif cinématographique appelle la description d'une quatrième synthèse dont on ne parle jamais. Que lui ne présente pas comme une synthèse, mais comme un pouvoir qu'il appelle le pouvoir de la schématisation, le schéma, qui veut dire figuration. Ce pouvoir de la schématisation, dont Kant dit qu'il est enfoui dans les profondeurs de l'âme et qu'il est un art caché et intrinsèquement mystérieux, je crois qu'il a à voir, moi, avec ce que j'appelle le pouvoir d'une reproductibilité, qui est en fait une prothéticité a priori. Je veux dire par là que la conscience, qu'elle soit kantienne, l'âme, qu'elle soit aristotélicienne ou freudienne, n'est ce qu'elle est que si elle a des écrans de projection. Et que ces écrans de projection, ça peut être des silex taillés, ça peut être des cailloux étranges collectionnés par les Néandertaliens qui collectionnaient les fossiles, on sait qu'on a trouvé sur les sites néandertaliens, ils ont collectionné. collection de fossiles avec des formes spirales. C'est un amateur de fossiles. Et évidemment, ensuite, qui prolifère sous la forme, non simplement de techniques, mais d'art à proprement parler, qui sont des formes techniques, mais des formes techniques d'un type très spécifique. Tout cela, aujourd'hui, nous en vivons une époque très particulière où la libido, c'est-à-dire le narcissisme, est devenue la matière première du capitalisme. La matière première comme temple de conscience, mais je dirais aussi et surtout d'inconscience et d'inscience. Parce que la conscience est une question qui date de Kant, la question du XXe et du XXIe siècle, c'est plutôt la question de l'inconscient et de l'inscience. Et je crois que cette exploitation industrielle de cette, entre guillemets, matière première, qui n'est d'ailleurs ni une matière, ni une forme, une puissance, la puissance de l'inconscient, c'est une exploitation qui détruit l'énergie libidinale, qui la ruine, qui annule le désir, qui substitue à ce désir les pulsions. Et autrement dit, c'est le développement de, entre guillemets, images scopiques, acoustiques, verbales, tout ce que vous voulez, motrices, parce que l'image, elle est d'abord, je le rappelle, en psychosensorimotrice. C'est d'abord l'image d'un mouvement. Chez le psychologue, c'est d'abord de ça, on parle comme une image. Ça existe chez le ver de terre qui n'a pas d'yeux. C'est pas important. Il a des réflexes. Donc c'est la question des réflexes. Et de ce qu'on appelle l'arc réflexe. Faire attention parce que l'arc réflexe, c'est ce qui fait que si vous donnez un coup de pied à un chien, vous mord. Et c'est ce qui fait que dans un film d'Alain Resnais qui s'appelle Le Monde de l'Amérique, à un moment donné, Depardieu sort excédé parce qu'il y en a tant qu'il est viré, il y a un type qui le cherche et tout, et à un moment donné, il commence à fatiguer, et paf, il le fout son poing dans la gueule. Donc, c'est cette question de l'arc réflexe, derrière, c'est la question de la violence, une violence absolue. Les images rendent aveugles, les images en ce sens-là, aujourd'hui, rendent aveugles. La question, c'est aveugle à quoi? À quoi? À Dieu, par exemple? C'est une bonne question. Après ce que nous a dit tout à l'heure Marie-Josée de Mondin, de Grégoire de Nice, et de ce qu'il dit Moïse, c'est une question intéressante. Que veut dire Dieu aujourd'hui? Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je laisse en arrière-plan. Cela dit, ça parlait de quelque chose qui, dans mon vocabulaire, n'existe pas, mais qui consiste. En tout cas, je pense que l'image mentale, maintenant je développe un peu mes propos, on renvoie toujours à une image-objet. Je crois qu'il n'y a pas d'image mentale au sens d'image du désir, sans image-objet. Autrement dit, je crois que l'image en général n'existe pas et que l'image mentale, c'est toujours couple avec une image-objet. Et que ce couple est inscrit dans une histoire. Et cette histoire est une histoire technique. Image mentale et image objet sont deux phases d'un seul et même phénomène. Et ce phénomène, c'est un processus, pour moi, d'individuation, à l'intérieur duquel se constitue le fantasme, évidemment, c'est ça, une image, n'est-ce pas, et des objets. Des objets qui sont des supports de fantasme, on peut appeler ça des fétiches, si on veut. Je pose, depuis longtemps, qu'il n'y a pas d'image mentale en général, ce qui s'appellerait une image transcendantale. Qui précéderait l'image objet. Avant l'image objet, il n'y a pas d'image. Sauf à dire qu'à l'image, sensorimotrice de l'arc réflexe de, par exemple, du ver de terre, ou des escargots qui sont au fond du lac Léman et qui étudient cachés. Aujourd'hui, il s'agit de repenser la question de l'imagination transcendante si nous voulons critiquer l'industrie culturelle. Non pas les dénoncer. Il s'agit de repenser la question de l'imagination transcendantale en posant qu'il n'y a pas d'imagination transcendantale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'image empirique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres horizons, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en particulier de possibilité de croire en ce monde, comme dit le page 221 du deuxième tome de son livre sur le cinéma. Il est possible de croire en ce monde, mais en ce monde, sans poser qu'il y a un autre monde, un chorismos, un monde séparé, qui serait de l'ordre du pur, par exemple, ou de l'intelligible, etc. Sans opposer le matériel et le formel, sans opposer le vivant et le mort, c'est-à-dire la technique et l'humanité ou l'art, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une image objet est nécessaire à l'image mentale? Cette image mentale, lorsqu'elle est l'image d'un désirant, et non pas d'un ver de terre. Eh bien, c'est qu'elle dure. Ce qui est extraordinaire dans l'image de la grotte Chauvet, c'est que ceux qui les ont peintes sont partis depuis extrêmement longtemps, mais les images sont toujours là, et nous intentionnalisons ce « toujours-là », qui ressemble à ce qu'Heidegger appelle ce « déjà-là », d'ailleurs. Nous l'intentionnalisons encore. Il y a quelque chose de magnifique qui fait que quelque chose reste et qui est réhabitable par quoi? Par nos fantasmes, autrement dit, par notre désir. J'ai essayé, moi, de théoriser toutes ces choses il y a longtemps maintenant, il y a 15 ans, en développant des concepts d'abord qui viennent de la préhistoire, de l'anthropologie, etc., et de la biologie, en essayant de proposer une critique de l'anthropologie de Laurent Grand, parce que je crois qu'elle est fascinante mais insuffisante. J'ai développé le concept d'épiphylogenèse en disant que, reprenant beaucoup le moins courant, ce qu'on appelle l'hominisation, alors je parle de l'hominisation, pas de l'humanisation, ce qu'on appelle l'hominisation, c'est l'apparition d'une troisième forme de mémoire. Dans la biologie telle qu'elle est aujourd'hui constituée, disons, dominée par la biologie moléculaire, il y a d'autres modèles théoriques qui concurrent, et dans tous les cas, on admet qu'il y a deux types de mémoire. Les êtres vivants supérieurs, c'est-à-dire dotés d'un système nerveux, c'est-à-dire d'un arc réflexe. Il y a la mémoire spécifique et la mémoire nerveuse, la mémoire génétique, si vous préférez, et la mémoire épigénétique, ou individuelle. Et puis c'est tout, et ces deux types de mémoire n'ont aucune relation possible à travers le temps, c'est-à-dire que l'individuation de l'espèce ne se fait pas par accumulation des expériences des individus qui composent cette espèce. Ça, c'est la règle du darwinisme scientifique qu'est la biologie moléculaire. Mais à partir d'au moins 3 ou 4 millions d'années, apparaît un troisième type de mémoire qu'on appelle la technique, que moi j'appelle, c'est pas pour être précieux, mais c'est parce que c'est plus précis, la rétention tertiaire. C'est-à-dire un dispositif de conservation d'un passé individuel, transmis, non pas par l'individu qui l'avait tout, qui a disparu, mais par la trace qu'il a laissée. Et cette trace, que ce soit une main négative, que ce soit un silex taillé, que ce soit un livre, etc., que ce soit un film de Jean-Luc Godard, ou ce que je suis en train de vous dire en ce moment, et que je suis en train de produire à partir de la lecture d'un texte plus ou moins préparé, c'est ce que j'appelle une rétention tertiaire. À l'intérieur des rétentions tertiaires, il y a toutes sortes de régimes de rétention tertiaire bien entendu. Par exemple, on ne peut pas mettre les mains négatives ou les peinture de bison de Lascaux sur une planque et silex taillé. C'est tout à fait évident. Mais en revanche, on ne peut pas, à mon avis, penser ces réalités rétentionnelles si on n'a pas vu d'abord que dans le cours de l'hominisation est apparu un nouveau support rétentionnel qui ouvre l'âge de ce qu'on a appelé, à tort à mon avis, naguère, l'homo faber, qui conduit vers ce qu'on appelle, à tort aujourd'hui encore, l'homo sapiens. Et c'est plus compliqué. Quoi qu'il en soit, ces questions doivent être abordées pour moi, dans ma style de travail, dans le corps de proposition que je vous adresse, à travers ce que j'appelle maintenant une organologie générale. Le fait humain, mais j'aime pas trop dire humain, moi, parce que l'humain. Il fut un temps où on disait l'être. Socrate disait à Protagoras, oh mon Dieu, pas être humain. Moi je me calasse à l'être. Je ne veux pas dire l'être non plus. Alors après, on a dit le devenir. Et devenir, ça m'embête aussi. Je dis, on fait ce qu'on peut, vivre avec son temps, comme tu disais, je dis moi l'individuation. Parce que je pense que Simon Dandre est un philosophe de notre époque. Et il a pensé l'individuation. L'individuation. Le cliché Simon Dandre, et commence dès le cristal, et qui se continue avec les plantes, les animaux, etc. Donc je précise avec lui l'individuation psychico-collective. c'est-à-dire celle qui est typique des êtres qui existent. Exister, voulant dire se tenir hors de soi, s'exclamer, etc. Cette individuation est toujours la mise en jeu, en réalité, de trois processus d'individuation, et pas simplement d'un processus d'individuation. Trois processus d'individuation qui articulent trois couches organisationnelles, ou organiques, ou organologiques. La première couche, c'est le corps, en tant qu'il est constitué d'organes, et non pas sans organes. Même si, évidemment, on a beaucoup à apprendre du corps sans organes, du fou, Antonin Artaud, si proche de Van Gogh dont il parle si bien, et dont Deleuze a tellement tiré. Néanmoins, le corps est une organisation, un dispositif organologique constitué par des organes que sont par exemple l'œil, le doigt ou la main. Le doigt aujourd'hui, la main autrefois. Aujourd'hui, c'est le doigt, c'est plus la main, et c'est très important. Le cerveau, bien sûr, le cœur aussi, et toutes sortes de... Le foie, qu'auraient dit les Grecs. Les Grecs n'auraient pas dit le cœur. Les Grecs se moquaient du cœur, ce qui n'intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est le foie. C'est ce qui intéresse Jean Clair aujourd'hui. Parce que la mélancolie, c'est ce qui est produit par... C'est ce qui est produit comme bile noire par le foie. On appelle ça les atrabilaires, etc. Les hypochondriaques. Il y a une grande maladie hypochondriaque du XXIe siècle. Comprenez-moi bien, la maladie chez moi, c'est la base de la santé, c'est la puissance de la santé. Donc quand je dis ça, ce n'est pas pour accuser Jean Clair, pour qui j'ai une admiration un peu haineuse, ou une haine un peu admirative. Ils ont beaucoup d'affection, malgré tout, compliqué. Il sait très bien parler de la mélancolie. Et il sait me toucher là où ça me fait mal, à savoir au niveau du foie. Moi, c'est mélancolique. Mais les organes physiologiques, là précisément, ils s'articulent les uns avec les autres, ils s'organisent via des organes artificiels, dont l'alcool ou l'héroïne sont d'ailleurs des cas. Ce sont des molécules de synthèse. On ne trouve pas d'alcool spontanément dans la cuve. On peut produire de l'alcool, on peut produire de l'héroïne, on peut produire des images, y compris un culte des images, une lutte contre les images, etc. Ce sont des artefacts. Dans ces artefacts, il y a les techniques en général, les objets, y compris les objets visuels, y compris celui que j'ai sur le livre en ce moment, qui me permet de vous voir. Si je l'enlève, je ne vois plus rien. Les outils, les instruments, les œuvres d'art, je mets tout ça au risque de vous choquer sur le même plan. Pour le moment, à ce stade de l'analyse, d'organologie générale, je mets tout ça sur le même plan. Donc, il y a une organisation physiologique, il y a des organes physiologiques, il y a des organes artificielles, techniques, qui font le système. Ça, c'est très important. C'est très bien d'avoir un appareil photo argentique, mais s'il n'y a pas de papier photo, qu'est-ce que vous en faites? C'est très bien d'avoir un ordinateur avec des batteries, mais si vous ne pouvez pas recharger vos batteries, qu'est-ce que vous en faites? Etc. Ça, dans le désert, à quoi ça sert? Bon. Ce qui fait la spécificité des réalités techniques, y compris les œuvres d'art, c'est qu'elles dépendent d'un milieu avec lequel elles font, entre guillemets, d'emploi un mot qui a très mauvaise presse, système. Mais système vient dans le 6, il y a le sun de synchronie, c'est-à-dire ensemble. On peut appeler ça, si vous préférez, ensemble. Troisièmement, justement, il y a une modalité de l'ensemble qui n'est pas simplement le système, mais justement l'être ensemble, et qui est l'organisation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'organisation sociale? C'est ce qui articule les corps entre eux via les artefacts. Que ces artefacts soient la loi, soient les radars automatiques qui produisent ce que Marcuse appelle déjà en 1954 surmoi automatique, que ce soit les œuvres d'art, qui ont pendant très longtemps été des dispositifs d'articulation, de leur dirais, d'agencement des affects à travers les dispositifs artefactuels et institutionnels, pour ça le droit canon, pour ça comme on veut. Tout ça forme trois couches organologiques que j'essaie de penser, moi, comme une organologie générale. Étant entendu que cette organologie générale doit elle-même s'appuyer sur le concept d'individuation psychique, collective et technique, tel que Simondon en a décrit les conditions de pensée. à partir, je ne veux pas du tout développer ça, mais je le dis comme ça, pour mémoire, d'une analyse du passage d'une pensée philosophique inspirée par Newton, c'est Kant, à une pensée philosophique inspirée par la mécanique quantique, et qui tout à coup dit, on ne peut plus opposer la forme et la matière, on ne peut plus raisonner avec sensibilité, contentement, comme chez Kant, etc. Il faut donc penser les instruments, parce qu'en mécanique quantique, l'observateur a des instruments, et l'observateur et ses instruments modifient le phénomène dans l'observant. Ça, c'est extrêmement important. Il faut raisonner avec un autre paradigme épistémologique. Alors, ce que je pose, c'est que l'organologie générale a une généalogie, engendre ce que j'appelle une généalogie. Et cette généalogie, c'est la généalogie du sensible. Le sensible étant entendu ici, chez moi, aussi bien comme l'intellect. Je ne fais pas d'opposition entre les deux. Il y a le sensible de l'arc réflexe, qui est un système réflexe, et puis il y a le sensible de Cézanne qui s'exclame devant, ou de Van Gogh, disons, ici, qui s'exclame devant le jaune, le jaune, le jaune, par exemple. Qui s'exclame. Alors on cite la lettre à Théo, mais le jaune, le jaune, le jaune, c'est pas dans la lettre à Théo, c'est sur les peintures. Van Gogh, mais ça s'exclame. Et ça constitue un jaune qui n'existait pas. Qui n'est pas une combinaison chimique miraculeuse, c'est pas du tout ça, on n'est pas dans de l'alchimie, non. Ça constitue un rapport au jaune, c'est-à-dire au sensible, qui est en fait intellectif. Quand je dis intellectif, je le dis au sens où on parle, chez Aristote, de l'âme noétique. On a souvent lu Aristote à partir de Platon en disant l'âme noétique chez Aristote, c'est l'intellect au sens de Platon, c'est-à-dire l'intelligible, qui s'oppose à l'âme sensitive, au sens où chez Platon, le sensible, c'est le dégradé, une simple image, un type. Non, pas du tout. Chez Aristote, ça ne marche pas comme ça. Aristote, c'est pas un platonicien. Chez Aristote, il n'y a pas d'opposition entre le noétique et le sensible. Le noétique, c'est un autre régime du sensible. Moi, je le dis, alors ça, je veux dire que Aristote ne le dit pas, même s'il y a certains tests dont vous pourrez me faire dire, en tirant un peu par les cheveux, ça veut dire. Moi, je dis, le noétique, c'est le sensible technique, c'est-à-dire artistique, car technique veut d'abord dire artistique, pour moi. L'organisation, l'organologie générale, ça évolue à travers le temps, ça se transforme. Quand on fait des photos, quand on va voir des photos, quand on prend des choses en photo, etc., on essaye de transformer une puissance de voir en un voir en acte qui signifie uniquement voir à nouveau. Et ça veut dire voir le nouveau, voir à nouveau frais, y compris dans l'ancien, y compris dans la répétition. Sinon, je ne vois pas. Alors évidemment, ce voir suppose un regarder. Et là, il y a toute une séquence dont on pourrait faire une longue phénoménologie. Je ne ferai pas maintenant, parce que j'en ai pas du tout le temps. Mais je voudrais simplement dire que cet élargissement du sensible, qui est en vérité ce que j'appelle moi le sensationnel, le jaune, le jaune, le jaune. Le sensible sensationnel, qu'on appelle aussi noétique, son élargissement se fait à l'intérieur d'un processus généalogique de transformation du sensible, qui est une conquête qui a commencé au moins depuis la loi de Chauvet, et c'est pourquoi nous disons c'est nous qui commençons là, mais certainement en premier, avant même la loi de Chauvet. Et cette transformation, en tant qu'elle est la transformation de trois processus d'animation, psychique, technique, et sociale, se fait toujours au prix de conquête et de déperdition. Par exemple, dans la société chamanique, la psyché, la société magique, disons, les chamanes, n'a pas la même structure que la psyché de la société industrielle, qui n'a pas la même structure que la psyché de la société médiévale, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les processus primordiaux, je les appelle comme ça, pas ontologiques, primordiaux, qui doivent être réunis pour que ça fonctionne, il y en a, je vais vous en parler maintenant, en particulier le narcissisme, que j'appelle narcissisme. primordial. Mais le narcissisme primordial du citoyen grec n'est pas celui du chaman, qui n'est pas celui de l'homme de Lascaux, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et la production de cette projection du sensationnel est toujours l'objet d'un combat. Car à l'intérieur de la sphère sociale, il y a des luttes. Quand j'étais petit, j'appelais ça les luttes des classes. Et je disais, il y a la bourgeoisie et le prolétariat, etc. Aujourd'hui, je ne dis plus ça exactement comme ça, mais ça, je ne vous en parlerai pas, un sujet compliqué, et qui me ferait dédier de mon sujet. En revanche, il y a une lutte pour contrôler le narcissisme primordial des enfants dans le marketing américain. Il y a une organisation de la circulation des images au sens large, mais aussi bien des sons, des traces verbales, etc., etc., ce que Freud appelle les traces verbales. Et une organisation de tout cela qui est aujourd'hui déployée à travers ce que Pierre Damien Huyghe appelle le temps des appareils et qui est en réalité un stade très récent de ce que j'appelle, en reprenant le terme de Sylvain Roux, j'en parlais ce matin, le processus de grammatisation, c'est-à-dire de séparation. Dans ce devenir, il y a une réinstanciation des rôles esthétiques. Qu'est-ce que veut dire réinstanciation des rôles ? Je crois profondément que l'histoire de l'art et l'histoire tout court doit être nécessairement, à un moment donné, un discours sur l'instanciation des rôles. Je veux dire que il est impossible, par exemple, de parler de la musique, de ce qui se produit en musique en Occident entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis l'école de Notre-Dame jusqu'à Mozart et Haydn, sans comprendre que l'invention technique qui fut celle de Guido d'Arezzo, là où Giotto, Dante se sont rencontrés, etc., mais un petit peu avant, quelques siècles avant, Guido d'Arezzo, qui était un moine, un jour invente un truc. Voilà un inventeur, il faut inventer, il invente un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il dit, tous ces chants religieux extraordinaires que nous nous transmettons de génération en génération, c'est-à-dire de moine en moine, dans des pratiques rituelles, etc., etc., nous n'en avons que des traces pneumatiques, des neumes. Ils sont des traces très très approximatives, ce sont des espèces d'aides mémoire pour essayer de reconstituer vraiment une ligne mélodique. Et ils mettent au point un nouveau truc qui s'appelle la portée, ce qu'on appelle la notation diastématique, dans le jargon spécialisé. Cette notation diastématique, pour lui, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de magnétophone pour enregistrer la tradition des chants grégoriens. Et il ne le fait que pour le service du Vatican. D'ailleurs, il adresse ça au Vatican. Et c'est un ecclésiastique, et chez les ecclésiastiques à cette époque-là, le chant est la chose principale en termes de pratique. C'est à travers le chant qu'on garde la mémoire des psaumes, etc., etc. Bref. Et c'est aussi une pratique spirituelle pour produire la communion. Bon. Donc, Guido d'Arezzo s'imagine mettre au point une simple mnémotechnique pour enregistrer des choses mieux que les neumes, et il commence à ouvrir, effectivement, une mémoire scopique du son. C'est-à-dire qu'il transforme du temps en espace. Si vous regardez une partition notée avec la technique de Guido d'Arezzo, c'est l'espace. C'est l'espace au même titre que ça, c'est l'espace. Là, je suis en train de temporaliser ça, c'est-à-dire que je vous le joue. C'est une partition que je suis en train de vous jouer. Mais, en vérité, c'est un espace. Alors, moi, j'essaie de montrer à ma cliente sur André Scheffner, qui est un grand musicologue africaniste, qu'en réalité, n'importe quel instrument de musique est déjà une espèce, non pas de partition, mais de grille d'accord, etc., etc. C'est déjà une spatialisation du temps en puissance. Bon, laissons tomber. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il faut attendre un siècle ou deux pour qu'apparaisse tout à coup une nouvelle figure qu'on va appeler non plus le musicien, mais le compositeur. Et que va faire ce compositeur ? C'est surtout vrai à partir de l'école de Notre-Dame. C'est quelqu'un qui ne va plus faire de la musique au sens où faire de la musique, ça veut dire prendre un instrument ou vocaliser, etc. Ce que faisaient les moines jusqu'à Guido d'Arezzo, il va se mettre à sa table. Qu'on appelle son lutrin, il va composer des combinaisons qu'il va d'ailleurs mathématiquement aborder. Parce que lui voit ça comme une réalité mathématique. Dans une vieille tradition qui remonte aux Grecs, et en particulier évidemment à Pythagore, où en réalité, musique et mathématiques, c'est la même chose. Nous voyons plus tout ça comme ça, mais c'est assez récent. Sachez-le, il n'y a pas très longtemps que la différence entre musique et mathématiques est faite. Elle est passée à un moment donné par le 16e et le 17e siècle, par l'instrument de musique, à un moment donné, on a dit « musique est physique ». Et puis finalement, on a séparé tout ça avec l'acoustique moderne. Quoi qu'il en soit, je vous donnais cet exemple du monde musical pour insister sur un point, c'est que l'apparition de la partition instancie de nouveaux rôles musicaux. Tout à coup, vous avez un compositeur d'un côté, un interprète de l'autre. Avant Guy Dalano, ça n'avait aucun sens. On n'était pas compositeur sans être interprète, mais inversement, autrement dit, il n'y avait ni interprète, ni compositeur, parce qu'il n'y avait pas de texte musical. Il n'y en avait rien en réalité. Mais nous le voyons après coup. C'est comme ça que nos anthropologues vont en Sardaigne, comme Bernard Jacob avec qui j'ai travaillé, essayer de reconstituer la partition des chants sardes, ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile. Et c'est comme ça aussi que un très grand musicien, dont maintenant je n'arrive pas à trouver le nom, part avec son phonographe enregistrer les chants d'Europe centrale en 1900. Bartok part avec son phonographe en disant le phonographe c'est ce qui va tuer l'oreille musicale. Tout comme la radio, parce que ça va permettre d'écouter de la musique sans être capable d'en faire, sans être capable d'en lire, sans être capable d'y comprendre, quoi que ce soit. Ça va donc faire croire aux gens qui sont en train d'en musique, alors qu'ils ne peuvent pas y entrer, mais le faire. Et néanmoins, c'est ce qui peut sauver la situation, parce que grâce au phonographe, je peux aller recueillir la musique d'Europe centrale, réinventer la musique savante occidentale à partir des pratiques populaires de l'Europe centrale, etc. Et au même moment, ça se passe, ça, c'est en 1937 que Bartok dit ça. Dans un entretien qu'il donne sur la radio. Au même moment, exactement, en 1937, exactement, à Kansas City, Charlie Parker est en train d'utiliser son phonographe pour décomposer les chorus de l'Hesperion. C'est-à-dire qu'il pratique la musique, non pas avec son saxophone, comme on l'a longtemps cru, mais d'abord avec son phonographe. Il s'en sert pour écouter. C'est un amateur. De quoi ? De jazz. Et qu'il va devenir le plus grand des jazzmen professionnels. Sachant qu'un professionnel de jazz, c'est un amateur professionnel. Un professionnel qui n'est pas un amateur professionnel n'est plus un professionnel d'un porc. Il y en a beaucoup. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que nous vivons un stade de la généalogie du sensible qui produit une réinstanciation des rôles telle que cette réinstanciation des rôles fait perdre son rôle purement et simplement à qui ? Au consommateur. Qui devient désaffecté. Parce qu'à la fois, il est bombardé et il est utilisé comme une pure matière, il n'a plus de rôle, il est la matière. Ça n'est pas un rôle d'être la matière. Il n'a aucune possibilité de l'entéléchie, d'accéder à l'entéléchie. Il est, autrement dit, privé de toute existence. Il est réduit au rôle de la subsistance. Et du même coup, il est prolétarisé. Qu'est-ce que c'est qu'une prolétarisation ? Je tiens à le répéter, c'est une perte de savoir. La prolétarisation décrite par Marx, donc je le disais ce matin, c'est celle qui consiste à priver le producteur de son savoir-faire, c'est comme ça que Marx décrit le prolétaire. Pour Marx, un prolétaire, ce n'est pas un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a plus accès au savoir-faire, donc il n'a plus le droit d'exister par un rôle symbolisant. Il est privé de toute possibilité d'exister. Il est désaffecté en ce sens-là. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui est désaffecté et qui est privé de ses savoir-vivre. Je pose que ça, c'est l'objet d'une lutte. J'en ai encore beaucoup à dire, mais je la garderai pour une autre fois. C'est l'objet d'une lutte où je crois, comme Marx, que le prolétariat, ce prolétariat, doit mener cette lutte avec une avant-garde, et cette avant-garde s'appelle les artistes. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, l'organologie, tout comme le dit Bartok à propos du phonographe, l'organologie qui est le problème est aussi, je dirais pas la solution, mais l'avenir. L'organologie industrielle, c'est le problème. c'est le problème qui produit la désaffection, le bombardement affectif, la saturation affective, etc. Tout ce dont on parle depuis ce matin, l'excès d'image. Bon. En même temps, et je rebondis sur la question que posait tout à l'heure une étudiante, je crois que cette organologie, aujourd'hui, doit être réinstanciée par des luttes symboliques, par des luttes artistiques, par des luttes sociales aussi, parce qu'on ne peut pas séparer toutes ces choses, par des luttes industrielles. Et que cela passe par une pensée de la psychanalyse, c'est-à-dire du désir. Et je voudrais terminer là-dessus très très rapidement pour qu'on ait le temps un peu de discuter, qu'on ne sépare pas sur ma parole un peu longue. Le premier à avoir essayé de penser cette généalogie du sensible dont je vous parle s'appelle Freud. La trace de cette tentative freudienne, on la trouve dans une lettre qu'il a écrite en 1895 à son ami Fliss, Wilhelm Fliss, lorsqu'il dit qu'il cherche à comprendre ce qui s'est constitué à un moment donné comme érection, non pas du pénis, mais du corps devenant bipède, et qui a permis une transformation fonctionnelle où l'odorat a perdu son rôle d'orientation au profit de la vue. Et où, à partir de là, une réorganisation de la psyché s'est constituée qui a donné naissance à ce qu'on peut appeler le désir, et pas simplement la pulsion. Je comptais vous faire une analyse détaillée de tout ce processus, j'en ai plus le temps, donc je ne le ferai pas. Ce que je voulais simplement dire, c'est que cette question de l'élévation, c'est un fusil à deux coups, ou un rythme binaire. Il y a d'abord l'élévation de ce que justement nous avons appelé tout à l'heure l'hominisation. Et puis, il y a l'élévation de ce que j'appellerais, moi, la sublimation. En réalité, je ne crois pas que ces deux coups puissent être séparés. Mais je pense qu'ils doivent être distingués. Je vais dire par là que la question que la technique ouvre, car finalement la conquête, ça c'est ce que ne dit pas Freud, bien sûr, la conquête de la station debout, c'est le roi grand, c'est la conquête de la main en tant qu'elle fabrique et donc produit des outils. Freud en parle d'ailleurs, mais il en parle naïvement quand un thème est tabou, lorsqu'il dit que les fils, s'emparant du nouvel arbre, vont tuer le père, et que c'est comme ça que va se constituer le désir à proprement parler, c'est-à-dire le nom du père. Ce qui est bizarre, c'est que Freud ne semble pas voir que cette arme, tout à coup, là, il n'en dit rien, alors qu'elle est précisément, moi, ce que je crois être le passage du désir. Cette arme, ou cette techné, plus généralement, c'est à la fois ce qui permet la régression, la barbarie, le massacre, etc. Et ce qui permet, ce que je ne voudrais pas appeler la progression, mais la sublimation. Puisqu'en effet, la technique peut être aussi bien une arme, celle du chasseur dont je parlais tout à l'heure, que un processus qui va s'appeler, par exemple, l'art ou la vie de l'esprit, pour prendre le mot de la reine. Et que dans cet espace-là, ce qui s'ouvre, c'est une économie du narcissisme. Narcissisme que l'on comprend trop souvent comme une maladie infantile de la psyché, ou un stade, disons, de l'histoire de la libido. Alors que, c'est très clair chez Freud, comme chez Lacan d'ailleurs, que le narcissisme, c'est pas simplement un stade de l'histoire de la libido, c'est la libido, c'est la condition de libido. Que le narcissisme est ce qui doit être préservé à tout prix pour qu'il y ait libidinalisation, mais qui peut être détruit. Freud étudie ces cas de destruction du narcissisme, de blessure du narcissisme, lorsqu'il parle de la conquête, la montée de la pulsion de mort, ce qu'on appelle parfois l'instinct de destruction, à travers, par exemple, le développement de la société industrielle, etc. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où la désaffection, la désaffectation des individus psychiques, c'est-à-dire aussi des individus collectifs, car l'un ne va pas sans l'autre, produit une dénarcissisation et par conséquent un aveuglement qui empêche de voir les images, là où il n'y a plus que des images, d'une certaine manière, qu'elles soient scopiques, verbales, sonores ou autres, mais des images qui sont redevenues des dispositifs réflexes, d'un arc réflexe. Ce qu'on cherche à produire, il y a toute une étude de cette imagerie-là dans les laboratoires de ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing. Ce qu'on cherche à produire avec tout ça, ce sont des réflexes. Ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Ce qui fait de la libido qu'elle est libido et qu'elle est donc narcissique, c'est qu'elle est l'expérience de l'image et non pas le conditionnement. La question, c'est le rapport entre conditionnement et expérience. C'est l'objet d'une lutte. Ce n'est pas une question tout à fait nouvelle. Il y a déjà eu des régressions pulsionnelles dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Cela dit, je pense que cette époque de la régression est très spécifique. Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que c'est la libido en tant que telle qui est devenue la base même de la lutte économique. Et par conséquent, il y a à mener, à mettre en place ce que j'appelle une écologie libidinale, donc pas du tout au sens où les écologistes vous diraient qu'il faut moins consommer, moins bander, moins baiser, ou je ne sais pas quoi, pas du tout, bien au contraire, mais au sens où on parle d'écologie dans le domaine scientifique, et où l'écologie désigne l'étude des milieux. Il n'y a pas de désir sans un milieu du désir. Et ce milieu est un milieu organologique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que peut être l'économie libidinale industrielle, quel peut être l'avenir d'une économie libidinale industrielle, et ça, c'est un objet politique. Je vous remercie de votre attention.